Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui reste ?
C'est au numéro 32 de l'avenue de la République que j'enseigne aux petits merdeux les théories philosophiques, que je traduis le Te Bello, que je trahis les philippiques pour aider les petits salauds, les premiers prix de gymnastique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, et bonjour Claudesco. Claude, alors on se tutoie parce qu'on se connaît, on a notamment travaillé ensemble, on va y revenir. Tu es enseignant, tu es militant de l'éducation populaire, formateur en sciences de l'éducation et membre du conseil scientifique des Franca. Alors avant de parler un petit peu des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir cette conversation avec toi, j'aimerais juste que tu nous présentes un petit peu qui sont les Franca.
Les Franca, c'est un mouvement qui est né à la Libération, en 1944, qui est né sur l'idée que l'enfant, il s'éduque dans la famille d'abord, c'est sûr. C'est une évidence. Il s'éduque à l'école, c'est sûr. Mais il s'éduque aussi dans tous les autres moments qui ne sont ni la famille, ni l'école. Et donc, les Franca ont essayé de développer des espaces collectifs dans lesquels les enfants pouvaient trouver des espaces d'éducation complémentaires à la famille et à l'école. Voilà. Et ça a été à l'origine un mouvement essentiellement développé par des enseignants, dans le cadre laïque, puisque ces espaces-là, il en existait dans les cadres confessionnels, mais dans le cadre laïque, il en existait relativement peu. Donc voilà comment se sont créés les Franca, et tout au long de leur histoire, ils sont restés sur cette idée de lien entre eux, la famille, l'école, et les temps de loisirs, l'éducation pendant les temps de loisirs, et la construction... Une construction de la personnalité des enfants, ouverte, dynamique, ouverte aux autres et respectueuse des aspects de dignité humaine. Ce qui nous amène forcément à travailler beaucoup avec les collectivités territoriales, parce que qui est responsable dans l'espace public de la vie quotidienne des enfants, c'est beaucoup les collectivités territoriales. Donc on travaille beaucoup et il y a actuellement 5000 centres d'activité qui travaillent avec les Franca sur l'ensemble du territoire. Et on concerne à peu près 1 million, 1 200 000 enfants qui participent aux activités coordonnées ou animées par les Franca.
Alors, parmi ces activités que proposent les Franca, il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement, qui s'appelle Graines de philo. Pour commencer par cette petite anecdote, on a, je disais, travaillé ensemble parce que je travaillais à Strasbourg dans un lycée de ZEP et j'avais entendu parler de ces initiatives de faire de la philo avec des enfants. Et moi, au début, je confesse que j'étais un petit peu sur la réserve par rapport à ça parce que ma formation universitaire m'amenait plutôt à penser que la philo, c'était jouer avec des concepts et que du coup, il fallait en amont posséder un certain nombre de savoirs pour pouvoir ensuite déployer une pensée à partir de ces savoirs-là. Et c'est en discutant avec toi, Claude, que tu m'as convaincu, je dois le dire, tu m'as convaincu du contraire. Tu m'as convaincu qu'on pouvait amener les enfants, même de très jeunes enfants, à faire de la philo en abordant cela d'une toute autre manière que celle qu'on nous apprend quand on fait une classe prépa ou une fac de philo ou tout ce qu'on voudra. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, d'abord avant de nous expliquer vraiment en quoi ça consiste, nous expliquer d'où ça vient ?
D'abord, Graines de philo, c'est une opération nationale maintenant, hein, qui est développée par les Franca sur l'ensemble du territoire national. Mais historiquement, c'est né à Strasbourg. Alors, pas la pratique de philo avec les enfants, hein, celle-là les plus anciennes, on pourra en toucher deux mots et parler de Matthew Lipman quand il a démarré les choses dans les années 70 aux États-Unis. Mais pour ce qui est de Graines de philo, c'est né à Strasbourg. Alors, c'est né sur l'idée que la particularité strasbourgeoise au sein de l'école, c'est qu'il y a une heure de religion à l'école. Or, cette heure de religion, elle est liée au concordat, et le concordat, il reconnaissait trois religions, c'est-à-dire les protestants, les catholiques et les juifs. Voilà. Et donc, là maintenant, les enfants à l'école, ils ont une heure de religion pour les protestants, pour les catholiques, pour les juifs. Et puis les autres, ceux qui ne sont ni dans ces religions parce qu'ils pratiquent une autre religion, pensez aux musulmans en particulier, ou qui n'ont pas de religion, là, ben ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils vont dans un temps qui s'appelle morale laïque républicaine. Sauf que l'inspecteur d'académie de l'époque s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre là-dedans de sérieux, là? Parce qu'il se rendait bien compte que les enseignants, ils ne savaient pas trop quoi faire de cette chose-là. Et donc c'est sur cette idée-là qu'avec l'ensemble des autres associations d'éducation populaire, donc en particulier la Ligue de l'enseignement, les CMA, on a proposé, et le CCE, pardon, on a proposé une réflexion commune sur la pratique de la discussion à visée philosophique avec les enfants. Ça, c'était en 2006, donc ça remonte donc à un peu plus de 10 ans. Et donc, c'est cette pratique-là qui s'est d'abord développée dans le Bas-Rhin, puis qui s'est développée après sur l'ensemble du territoire national.
Discussion à visée philosophique, je le redis parce que le mot évidemment très important là-dedans, c'est discussion. C'est-à-dire que l'organisation de ces moments-là, c'est vraiment un temps de discussion. Alors, on va dire entre les enfants, mais il faut bien entendre par là que ça peut commencer dès 3 ans, je crois.
Oui, les plus petits, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser la parole. C'est pour ça que les plus jeunes ont 3 ans. Mmh. Et les plus âgés, dans les ateliers, j'ai jusqu'à des gens de plus de 80 ans. Donc,
oui, c'est ça. En fait, ça peut aussi
ça
vraiment...
Ça dépasse aussi l'enfance et la jeunesse.
Ça a été mis en place dans les écoles, mais en fait, c'est quelque chose que les adultes peuvent aussi pratiquer, bien sûr. Mais c'est vraiment un temps de discussion, donc qui repose aussi beaucoup sur la notion d'écoute.
Si on appelle ça discussion à visée philosophique, c'est aussi parce que les profs de philo disaient « Mais non, c'est pas de la philo, ça, c'est autre chose. » Et c'est vrai que c'est pas de la philo, c'est vrai que c'est autre chose. Ce sont des éléments préparatoires à la réflexion philosophique. Quelquefois, on peut dire, on essaye de penser comme les philosophes. C'est important parce que ce qui structure de fait l'activité qu'on va faire, c'est autour de ce que, dès l'origine, quand Matthew Lipman a commencé à développer ses pratiques aux États-Unis vers les années 70, ce qu'il appelait les habiletés de pensée, qu'on continue à appeler comme ça, c'est donc construire des habiletés de pensée, des schémas neuronaux dans la tête des enfants qui vont faire que ces habiletés de pensée étant stabilisées, la réflexion philosophique derrière sera facilitée parce qu'elle s'appuiera sur ces habiletés de pensée. Ce qui se passe actuellement souvent, mais tu le sais parce que tu as enseigné à la philo en terminale, c'est que ces habiletés de pensée, les jeunes qui arrivent en terminale, ils ne les ont pas du tout construites et ils se trouvent confrontés à il faut que je me construise cette capacité à problématiser une situation ou à conceptualiser des choses et en même temps à travailler sur le fond, c'est-à-dire sur les objets que je problématise et que je conceptualise. Et donc ce double travail, nous on dit d'une certaine manière, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire dans la tête des enfants ces habiletés de pensée qui ont pour objet un élément fondamental et qui est au-delà de la philo, c'est apprendre à penser par soi-même. Alors je veux dire au-delà de la philo, on peut dire que c'est quand même aussi le fondement de la philosophie, d'apprendre à penser par soi-même. D'abord, comme tu le faisais remarquer, c'est quelque chose qui s'appuie sur la parole. À la différence de la réflexion philosophique, qui est quand même fondamentalement une réflexion écrite. Hein. Et donc ça s'appuie d'abord sur des compétences que je n'appellerai pas philosophiques, celles-là que j'appellerai citoyennes. C'est-à-dire être capable d'écouter l'autre, d'abord de ne pas lui couper la parole, et puis de l'écouter vraiment, c'est-à-dire pas d'attendre qu'il ait fini de parler pour parler à son tour, mais pour se réinterroger sur ce que l'autre dit, donc cette capacité à comprendre que ce que va dire l'autre, ça va m'aider moi à aller plus loin, c'est cette capacité-là qui est travaillée. Et donc ça, c'est plutôt une capacité d'ordre citoyen, ça, être capable d'écouter l'autre, de se réinterroger par rapport au discours de l'autre, et d'avoir une réaction qui est une réaction de compréhension mutuelle et d'essayer et on peut comprendre ce que pense l'autre sans être d'accord avec, hein. C'est pas le dernier qui parle qui a raison, mais c'est ce travail d'écoute mutuelle. Ça, moi, j'appelle pas ça du travail de type philosophique, j'appelle ça du travail de type citoyen. N'empêche que ça, c'est important, et ça passe par une pratique extrêmement codifiée et extrêmement contraignante. Et les contraintes, elles sont simples, hein. Elles sont simplement, d'abord, il y a un bâton de parole, donc c'est celui qui a le bâton de parole qui parle, et les autres n'ont pas le bâton de parole et n'ont pas droit à la parole, ils ne parlent pas, mais par contre, ils auront le bâton de parole quand ils voudront, comme ils voudront, avec des procédures pour la passation du bâton de parole. Et le deuxième principe, c'est on ne se moque pas, parce que chacun peut développer ses arguments au motif que sur les discussions qu'on va avoir, il n'y a pas une bonne réponse. Donc le premier élément, c'est un espace contraignant avec des règles très précises, avec un cheminement que je ne vais pas décrire parce qu'il est très technique, mais très précis, qui libère la parole des enfants, parce qu'il les met dans des situations où ils peuvent, ils ont enfin la possibilité de dire ce qu'ils pensent et d'être écoutés par les autres, dans un climat d'écoute mutuelle positif. Ceci étant posé, après les compétences et les habiletés de pensée qui sont travaillées, le premièrement, c'est chaque fois que je dis quelque chose, il y a toujours des questions qui se posent derrière. Et est-ce que je suis capable de voir les questions qui se posent derrière les choses qui sont dites? C'est un exemple que je prends souvent quand je dis « un ami, c'est quelqu'un à qui on dit tout », derrière la question, c'est « est-ce qu'on dit toujours tout à un ami ?» Et quand on passe de l'affirmation à la question, là, on peut discuter. Sur la question, on peut discuter. Sur l'affirmation, on est d'accord avec ou pas d'accord avec, point. Sur la question, on peut ouvrir, mais quand est-ce qu'on lui dit, quand est-ce qu'on lui dit pas, parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, on ne dit pas tout à un ami. Deuxième élément, si je dis quelque chose, il faut que je sois capable de dire pourquoi je le dis. C'est-à-dire la capacité à argumenter mon point de vue. Quand je dis quelque chose, je ne le dis jamais à partir de rien. Je le dis toujours à partir d'idées, de représentations que je peux avoir, à partir d'interprétations que je peux faire de la vie. Et donc, travailler sur si je dis ça, pourquoi je dis ça? D'où je le tiens, ce que je dis? D'où je le tiens et comment se fait-il que mon copain, ma copine, quelqu'un d'autre va, sur la même chose, dire des choses différentes, donc avoir un point de vue différent. Et cette capacité à comprendre que, de toute façon, j'interprète les choses, c'est pas, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas interpréter, c'est la vie, ça, on interprète tout le monde, mais c'est se rendre compte que ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est une interprétation, et qu'il peut y en avoir d'autres. Et donc là, il y a deux compétences, là, la compétence d'argumentation et la compétence interprétative. Voilà. Et enfin, dernière habileté qu'on travaille, c'est quand j'emploie des mots, quelquefois, l'autre en face, il emploie les mêmes mots, mais il n'y met pas la même chose que moi derrière. Et comme on n'y met pas les mêmes choses derrière, ben, ça peut provoquer des incompréhensions, au mieux des incompréhensions, au pire, on s'attrape, on n'est pas d'accord, alors qu'on ne parle pas de la même chose, simplement. Donc, si on emploie des mots, il y a des moments où il faut peut-être essayer de clarifier ce qu'on met derrière les mots et expliciter ce qu'on met derrière les mots. Voilà. Alors ça, c'est les éléments de compétences qu'on développe. Alors, si on les traduit en termes philosophiques, hein, c'est la capacité à problématiser, à argumenter, l'herméneutique, donc tout ce qui est le travail d'interprétation, et la conceptualisation. Et ça, c'est la particularité du mouvement des Francas. Hein. Il y a eu un développement très important des discussions à visée philosophique. Nous, on les aborde effectivement pour construire ces compétences, et on essaye que les enfants, les jeunes, les utilisent dans leur vie quotidienne. Et pas simplement dans des moments qui seraient des moments appelés discussions à visée philosophique, point. Et que donc on puisse travailler ça aussi. Après une activité, mais on parle de comment on a vécu l'activité. Au travers de l'expression de ses ressentis, on va faire émerger des questionnements qui se posent, on va travailler les questionnements, et là, on va argumenter, etc. Voilà, voilà un peu le sens général dans lequel on travaille.
Et ce qui est très impressionnant, ce que moi j'ai pu constater, alors, c'est un travail qui se fait sur le, sur le long terme, parce qu'il faut que le public visé, pour pas juste le limiter aux enfants, même si c'est de ça dont on est en train de parler, il faut qu'il intègre justement ces contraintes dont tu parlais, il faut qu'il accepte les principes de l'exercice, mais au bout d'un certain nombre de ces séances, ce qui est très impressionnant, c'est à quel point les enfants deviennent autonomes dans cette gestion de la parole, dans cette écoute et dans cette cette capacité à avoir une discussion qui soit tout simplement une discussion, moi je dirais saine, en fait, saine et pas toujours calme, parce que parfois il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des formes d'incompréhension, etc. Mais le fait qu'on en parle, le fait qu'on mette des mots sur ces tensions, finalement permet de les résoudre. Et il y a un moment où c'est presque comme si l'enfant n'avait plus besoin d'être encadré par l'adulte.
Alors là, tu abordes un élément supplémentaire ou un développement qui s'appelle DVDP, discussion à visée démocratique et philosophique. Dans le travail sur la DVDP, c'est-à-dire quand les habiletés commencent à être construites, quand on sent que le groupe commence à pouvoir effectivement pratiquement fonctionner, avoir bien intégré la manière dont ça... On introduit des éléments de type démocratique où ce sont les enfants... Alors, ça passe par la distribution de rôles. Le distributeur de la parole, le président de séance, celui qui va être le reformulateur, celui qui sera le synthétiseur, etc. Et ces rôles, petit à petit, peuvent être tenus par les enfants eux-mêmes. Ça, c'est le stade supérieur, on va dire. Hein. Mais c'est vrai que les deux éléments qui permettent de faire fonctionner ça, le premier, c'est que c'est un espace où l'enfant peut... Enfin, l'enfant, moi... Je dis le mot enfant au sens de Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans. Hein, ça inclut les adolescents aussi. Hein. On parlera après la formation des adultes. L'enfant, il n'a pas souvent d'espace où il peut dire ce qu'il pense. Et puis, où il peut le dire, surtout dans un espace protégé, où il sent qu'il est vraiment écouté sur ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce que quand les enfants ont compris comment ça fonctionnait, ça, ils sont très très demandeurs de ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui fait que ça fonctionne, ça c'est le rôle de l'adulte, c'est que l'adulte, il est là pour faire qu'on ne sorte pas du cadre. Il y a un cadre qui est contraignant, et la contrainte du cadre, c'est on ne se moque pas, et quand il y en a un qui parle, il n'y en a pas plusieurs qui parlent en même temps, on ne coupe pas la parole, etc. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que, moi, pour avoir animé de très très nombreux ateliers avec des publics très différenciés, puisque depuis des tout petits, jusqu'à des personnes âgées, hein, et l'analyse que font les participants, quel que soit leur âge, après, c'est ce côté de calme qu'il y a. Alors, on était bien. On était bien parce qu'on était dans un cadre acceptant. Voilà. Et ce qui n'empêche pas que dans ce cadre acceptant, comme tu l'as dit, il puisse y avoir des désaccords, y compris des désaccords importants. Mais l'idée, c'est de comprendre que le désaccord, mais c'est fondamental, le désaccord. C'est ça qui fait progresser. Le désaccord, il fait progresser à condition qu'il y ait de l'écoute collective. S'il y a de l'écoute collective, il fait progresser. S'il n'y a pas d'écoute collective, chacun reste sur ses positions. Mais ça, c'est le rôle de l'adulte de faire que ça fonctionne de cette manière-là.
Ça fonctionne parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un espace en fait qui est protégé. Parce que quand bien même l'objectif c'est de développer des habiletés ou des compétences, même si moi j'ai plus de réticence à employer ce mot-là, c'est un espace qui n'est pas évalué. Même si c'est dans le cadre scolaire, c'est un moment où ils ne sont pas évalués, où il n'y a rien à la... Il n'y a rien à la clé de ça aussi. Il n'y a pas d'examen à la fin, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Voilà.
Ce n'est pas une évaluation externe, c'est une évaluation interne. C'est chacun qui se dit, mais ce que je viens de faire là, est-ce que ça m'a aidé à mieux comprendre la vie, à être mieux dans ma vie? Parce que l'objectif de fond, ce n'est pas de faire du blabla, c'est de vivre. Et c'est de vivre du mieux possible. Et apprendre à prendre la parole, apprendre à oser dire qu'on n'est pas d'accord avec les autres, à oser s'opposer là... Ben, c'est un apprentissage. Et quand l'enfant ou l'adolescent a compris qu'il était capable de faire ça et que ça n'allait pas, la maison n'allait pas lui tomber dessus parce qu'il avait fait ça, ben, il a fait un pas en avant. Et ça, il faut l'aider aussi à le mesurer, ce pas en avant. Moi, je ne parle pas d'évaluation, je préfère parler de mesure, parce que c'est une mesure individuelle. C'est chacun qui, individuellement, va se dire, tiens, mais là, j'ai fait un truc qu'avant, je ne savais pas faire.
Et là-dedans, dans ce sentiment de grandir, il y a quelque chose que moi, je trouve aussi très important politiquement. Tu parlais de formation des citoyens. Il y a quelque chose de politiquement important qui est que l'objectif... Enfin, il y a plusieurs choses, en fait. L'objectif, ce n'est pas de créer du consensus, par exemple. C'est essentiel, je trouve. En démocratie, c'est essentiel.
Alors, moi, je vais redire ce que tu dis, mais avec mes mots à moi. Moi, je dis, j'ai besoin de l'autre pour grandir. Je ne peux grandir que dans la confrontation à l'autre. Et plus l'autre grandit, plus moi, je vais grandir. Mais on ne grandira pas forcément... Forcément, nous ne grandirons pas de la même manière. Mais donc, moi, j'aide l'autre à se développer parce que c'est l'autre qui va m'aider à me développer. Mais ce développement, il ne peut se faire que sur du désaccord. On a souvent la peur du conflit. Parce qu'on met derrière le mot conflit, conflit égale opposition brutale, voire même physique, avec la violence du conflit. Alors que le conflit, c'est le moteur de la vie. C'est parce que à un moment, on n'est pas d'accord de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, qu'on réinterroge ses propres affaires. Donc, il faut réhabiliter le conflit. Mais un conflit positif, un conflit qui fait grandir l'un et l'autre. Et pas un conflit qui consiste pour l'un à écraser l'autre. C'est pour ça que les cadres posés sont extrêmement importants.
Là-dedans, il y a aussi quelque chose qui... aujourd'hui doit être porté, à mon avis, enfin, il faut le dire et le redire, c'est que il ne peut pas y avoir de progression collective dans un monde dans lequel tout le monde est interchangeable. Donc il y a cette idée du conflit, et par derrière l'idée du conflit, il y a l'idée aussi de l'individu, de l'autonomisation de chacun. Chacun a le droit d'avoir son avis et de le confronter aux autres.
Oui. Alors avec un élément alors là qui est au cœur de l'éducation populaire, là, si je boucle avec ce que tu disais au début dans la présentation, ce qui est le fondement de l'éducation populaire, c'est bien d'aider les gens à prendre conscience des situations dans lesquelles ils vivent et à être capable de se libérer des dominations qu'ils subissent. Mais pour être capable de faire ça, effectivement, il faut aussi comprendre et analyser les rapports de force. Il ne faut pas faire comme si on était dans une situation de vie où des rapports de force n'existent pas. Les rapports de force, ils existent, ils sont naturels dans la vie sociale, et donc il faut apprendre à les regarder, à les analyser. Et c'est parce qu'on comprend ces éléments-là qu'on est capable de les dépasser. Et je vais donner un exemple que je donne souvent pour faire comprendre cette histoire-là, mais c'est cet exemple, je l'ai emprunté à Henri Laborie. Hein. De tout temps, l'homme a essayé de se libérer de l'attraction terrestre. Icare, bon, il s'est brûlé les ailes. Cyrano de Bergerac, il a inventé 7 moyens pour aller sur la Lune. Et puis, un jour, Newton a explicité les lois de l'attraction terrestre. Il n'a pas annihilé l'attraction terrestre, elle a continué à exister, mais à partir du moment où on a compris ce qu'était l'attraction terrestre, on a été capable d'aller sur la Lune. Et c'est quand on comprend les choses qu'on est capable de les dépasser. On les dépasse et on ne les supprime pas. L'attraction terrestre, heureusement, elle continue à faire qu'on peut rester tranquillement sur cette Terre. Donc voilà, et ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est au travers de ces éléments, quand je dis apprendre à penser par soi-même, c'est comprendre aussi, dans le rapport avec l'autre, comment se construit ce rapport avec l'autre et comment ça peut me permettre, moi, de me libérer d'un certain nombre de choses qui pèsent sur moi.
Alors, au-delà de la valeur en soi de ce dont on est en train de parler, où moi je signe d'emblée, c'est-à-dire de produire ce genre de phénomène dans la société, peut-être que certaines personnes voudraient savoir, des personnes qui s'interrogent sur les différentes utilités de ce qui se passe à l'école, peut-être se demandent-ils qu'est-ce que ça apporte concrètement, disons, à l'école, à la société, etc., toutes ces habiletés.
Pour un enseignant, ce que ça apporte, déjà, c'est une autre relation avec ses élèves. parce qu'il ne les voit plus là comme des élèves, mais il les voit comme des personnes. Et quelquefois, il découvre des gamins. C'est pas forcément le bon élève de la classe qui est le plus pertinent dans ses propos dans ces temps-là. Parce que le bon élève, il est toujours en train de chercher la bonne réponse. C'est-à-dire la réponse du maître ou de la maîtresse. Là, les enfants les plus pertinents, ce sont ceux qui ont déjà commencé à être dans leur propre réflexion. Donc il y a déjà cet élément-là. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que ça peut apporter aux enseignants, c'est un autre regard sur leur pratique de classe. Parce que c'est une interrogation aussi sur le statut du savoir. Le statut du savoir, c'est un statut important pour l'enseignant, parce que c'est son métier de transmettre des savoirs. Mais il arrive un moment où, pris dans la routine quotidienne, l'enseignant ne se réinterroge plus sur le statut du savoir. Or là, dans des situations où on parle de savoir qu'on interroge, ben, ça réinterroge aussi le statut du savoir dans la classe. Et ce qu'on essaye de développer actuellement, c'est dans les établissements scolaires, ce type de pratique à partir du programme scolaire. Je prends un exemple. En cinquième, il y a un programme sur les grandes découvertes. L'enseignant veut travailler sur les grandes découvertes. Il peut faire son cours, ou il peut commencer par une réflexion sur « Mais qu'est-ce qui a pu pousser des gens, là, au XVIe siècle ?» à monter sur des bateaux et à partir à l'aventure en ne sachant pas du tout où ils allaient, comme ça. Et puis après, en glissant, mais là, vous savez que les États-Unis, vous savez, les États-Unis ont un projet là, d'une colonisation de Mars là, dans les années 2020-2030. C'est 6 mois aller, 6 mois retour, plus le temps va passer là-bas. Vous iriez-vous ? Voilà. Et sur cette question-là, on commence à travailler. Derrière ça, quelles questions ça pose ? Moi, j'irai parce que ou je n'irai pas parce que, et tout d'un coup, ça pose la question de mon rapport à la peur, mon rapport à la découverte, à la nouveauté, etc. Et puis, quand on a fait ça, eh bien, après, le prof, il peut faire son cours en histoire ou en géo, là, sur les grandes découvertes. Et à ce moment-là, ça aide le jeune à trouver du sens à ce qu'il fait. Alors, j'ai pris un exemple là-dessus, on aurait pu en prendre un autour de l'écologie, en particulier tout le programme de sciences ou de SVT du collège, on aurait pu en prendre autour de la littérature, parce que, simplement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. On peut discuter de ça, hein, on peut discuter. Et quand on commence à gratter derrière ça, on se rend compte qu'un texte littéraire, c'est pas quelque chose qu'il faut bêtement regarder là ou rejeter là. Ça pose des questions. Ça pose des questions qui sont des questions de la vie de tous les jours.